Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Nous sommes maintenant à quelques jours du lancement de la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre, Le Ciel, qui s'ouvre à Rabat ce vendredi 18 avril. Cette édition met à l'honneur les écrivains marocains du monde en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME, qui a donc concocté un programme dense, varié, qui reflète la créativité des auteurs et des autrices de la diaspora, leurs questionnements et leurs liens avec le Maroc. Table ronde, hommage, présentation d'ouvrages, projection de films, on vous dit tout, ou plutôt Driss El Yazami, qui est notre invité aujourd'hui, nous dit tout sur ce rendez-vous à ne pas manquer. Driss El Yazami, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président du CCME, qui est le partenaire cette année du ministère de la Culture pour mettre à l'honneur lors du ciel les écrivains marocains du monde. En quoi, d'abord peut-être pour commencer une question introductive, en quoi la participation et la place du CCME dans ce ciel en particulier, vous êtes toujours présent depuis des années avec un stand plutôt imposant, mais en quoi votre participation cette année est particulière ?
Écoutez, elle est particulière parce que bien évidemment le fait que le ministère de la Culture mette à l'honneur les Marocains du monde est un événement. Et donc, disons, pour honorer cette initiative, nous avons effectivement préparé un programme très riche, très dense, comme vous l'avez dit, qui traite de la littérature, mais pas seulement. On discutera des principales parutions durant cette année en sciences humaines. Il y a aussi une exposition photo, un programme cinéma, deux numéros spéciaux, un numéro spécial de tel quel sur les romancières marocaines, et un autre de diptyque sur les plasticiens, une vingtaine de livres et plusieurs thématiques et plusieurs hommages, comme vous l'avez dit, à des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'immigration.
Alors, en dehors du ciel, quelle place tient la question de la production littéraire et de la production de façon générale des connaissances, aussi en sciences humaines, en recherche scientifique, dans la mission du CCME ? Parce qu'au-delà du ciel, vous organisez aussi régulièrement des événements autour de ces thématiques, vous encouragez des publications, des traductions. Donc, quelle place la défense de cette production littéraire tient dans votre mission ?
Écoutez, il y avait d'abord une sorte de préoccupation dès l'émergence du CCME, qui était celle de changer la représentation des Marocains du monde sur le Maroc, et réciproquement, c'est-à-dire aussi de changer cette perception que l'opinion publique marocaine et parfois les autorités ont de la diaspora marocaine, une diaspora marquée par l'histoire ouvrière. Nous voulions montrer les mutations de cette immigration, et une des mutations essentielles, c'est l'enracinement de ces populations dans les sociétés de résidence, dont témoignent les enfants, les nouvelles générations, et aussi le développement socioculturel de cette communauté. Aujourd'hui, disons que, de manière assez importante, la recherche, par exemple, en sciences humaines, sur l'immigration marocaine, se fait à l'étranger par des enfants d'immigrés. Pas seulement, mais pour une bonne part. Donc aujourd'hui, cette communauté marocaine compte des chercheurs, mais elle compte des créateurs dans tous les sens. L'autre préoccupation qui nous a habités depuis le début, et je crois qu'il y a une sorte aujourd'hui de prise de conscience du côté marocain, c'est que la diaspora marocaine a contribué de manière significative depuis assez longtemps au développement du Maroc et au développement des cultures du Maroc. Il y a cette image toujours un peu économiciste qui ne voyait qu'une partie importante, bien évidemment, de l'histoire de l'immigration, mais qui mettait de côté d'autres... Je prends comme personnage emblématique assez souvent de cette histoire méconnue la présence à Paris, dans le Paris des années 1930, de l'Hajj Belaïd, qui est le grand maître de la chanson Soussi, et Hossein Slaoui, que tous les Marocains arabophones aussi aiment et adorent. Ces deux personnages sont à pied d'œuvre dans le Paris de 1930, mais ils rejoignent déjà à Paris des étudiants et des militants nationalistes, déjà présents, des confréries soufis, comme par exemple la confrérie d'Arkaouia qui est déjà présente à Paris dans le jeune villier des années 1920. Et donc, progressivement, de proche en proche, on va voir arriver des peintres, des cinéastes, des écrivains. Cette année, par exemple, on va lui rendre hommage, on célèbre le 70e anniversaire de la publication 1955 à Paris de Des Boucs.
De Driss Rebi.
De Driss Rebi. Et l'année prochaine, on va célébrer le centenaire de naissance de Driss Rebi. Donc, de tous les côtés, il y a, dans tous les domaines culturels, il y a cette présence qui était un peu connue finalement, et aussi en interaction déjà avec le Maroc. Mais ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est une interaction plus importante avec la société marocaine. C'est-à-dire que je crois qu'on a fini par comprendre à tous les niveaux, au niveau des autorités comme au niveau de la société, que ce n'est plus simplement une histoire passagère d'hommes qui immigrent seuls, qui vont revenir, ou de familles qui vont revenir. On a compris que cette diaspora fait partie intégrante de l'histoire du Maroc et de son avenir.
Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne que l'idée qu'on en a, qui commencerait avec la migration liée aux ouvriers partant pour d'abord des pays européens majoritairement, et puis très variée, puisque ce n'était pas que des travailleurs, mais comme vous l'avez dit, c'était aussi des artistes. Avant de passer plus précisément à la production littéraire, puisqu'on parle du programme du ciel, on parle souvent de la diaspora marocaine, des Marocains du monde. Est-ce qu'on peut les rassembler sous ce nom de diaspora? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a un peu partout. Et donc du coup, peut-être que ça aussi, ça casse cette image des Marocains qui partent uniquement vers l'Europe, uniquement pour y travailler, etc., non?
Bon, 80% des Marocains du monde sont encore en Europe, mais d'évidence, comme vous l'avez souligné, la mondialisation de cette population est un fait majeur. Autre fait majeur, c'est d'évidence l'enracinement dans les sociétés et donc la diversification. On n'est pas le même Marocain d'origine en Hollande qu'en Italie ou qu'en France, à la deuxième ou à la quatrième génération. Et la littérature, en fait, et de manière générale, les cultures et les créations culturelles des Marocains du monde portent témoignage de cette diversité. Aujourd'hui, je dis assez souvent que le roman marocain aujourd'hui se féminise, d'abord de plus en plus, au Maroc mais aussi dans la diaspora, et en même temps il s'écrit dans toutes les langues du monde. Il y a au moins une dizaine de langues aujourd'hui qui portent témoignage de cette diversité et de cette créativité.
Alors justement, vous faites une très bonne transition, puisque la question suivante que j'allais vous poser, pour qu'on consacre d'abord une première partie pour comprendre ce que c'est cette littérature des Marocains et des Marocaines du monde aujourd'hui, d'abord comment est-ce qu'elle a évolué, d'abord quantitativement, et puis aussi qualitativement, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'auteurs et d'autrices marocaines recevoir des prix, être reconnus un peu partout à l'étranger pour leurs œuvres. Donc comment vous, qui suivez cette production depuis des années, vous juger, évaluer la production quantitative et qualitative de cette diaspora?
Écoutez, je crois qu'on a eu affaire à une génération d'hommes, clairement, pionniers, Driss Rebi, Mohamed Khairdin, Abdelatif Labi, Tahar Benjelloun, Mohamed Leftah, l'immense Mohamed Leftah, qui a immigré lui au Caire, mais bon, qui écrivait en français, qui a été trop longtemps méconnu. Donc, il s'agit là d'un groupe de précurseurs qui ont joué un rôle essentiel dans l'émergence de ce qu'on appelait à l'époque la littérature marocaine ou maghrébine d'expression française. Mais bon, qui allait bien au-delà, me semble-t-il. En tout cas, il y a cette génération. On remarque progressivement, de proche en proche, une généralisation. Aujourd'hui, on peut parler, comme les ouvrages de Salim Jay ont témoigné, dans ses anthologies, il a bien montré la diversité de derrière ces grands personnages, il y a des dizaines d'autres auteurs, en français principalement, mais là aussi, la diversité linguistique va aussi faire son œuvre, notamment par exemple avec la génération néerlandaise de personnes comme Abdelkader Ben Ali aux Pays-Bas et tous ceux qui l'ont suivi. Aujourd'hui, si pour aller assez vite aujourd'hui, et c'est un peu peut-être un peu sommaire, mais aujourd'hui nous avons affaire à une génération de principalement féminine. On peut dire que les femmes dominent, et c'est pas simplement un témoignage et un reflet de la féminisation de la communauté marocaine. Aujourd'hui, presque 50% de cette immigration est féminine, mais aussi une mondialisation réelle. Je veux dire, aujourd'hui, le roman marocain s'écrit en arabe, y compris dans la diaspora, en amazigh, en français, en castillan, en catalan, en néerlandais, en italien, en anglais, en allemand. Donc il y a une véritable mondialisation. Et il y a, comme vous l'avez dit, une sorte de normalisation. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous circulez dans les librairies en France et que vous voyez les présentoirs consacrés à Leïla Slimani, comme tout grand auteur, comme tout, ou au-delà des prix, je veux dire, mais le fait d'avoir eu les Goncourt, trois Goncourt marocains, c'est un motif de fierté, c'est un motif qui montre, qui est emblématique d'une évolution.
Mais comment expliquer justement cette féminisation de la littérature marocaine de la diaspora? Et qui sont aussi ces jeunes femmes qui écrivent? Parce que quand on regarde leurs profils, comme Leïla Slimani que vous venez de citer, comme Rim Battal, comme Donia Hadni, comme... j'ai plus de noms là qui me viennent, il y en a un certain nombre. Alors, il y en a qui sont partis sur le tard. C'est pas des filles qui sont des autrices qui sont nées en contexte d'immigration. Ce sont des Marocaines qui sont parties à l'âge adulte et qui aujourd'hui écrivent. Est-ce que ça aussi, c'est un shift, c'est un changement?
Écoutez, ces filles qui sont parties, bien évidemment, il y a les filles de l'immigration qui sont nées en contexte migratoire, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi les filles qui sont parties d'ici. À mon avis, il faut le voir, ce phénomène, comme partie prenante d'une dynamique beaucoup plus massive qui est celle de l'entrée des Marocains dans la mobilité internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 42 000 ou un peu plus d'étudiants marocains en France, des milliers en Espagne, aux États-Unis, etc., c'est parce que la mobilité est devenue partie prenante de la société marocaine. Et aussi, donc, les Marocains voyagent, émigrent de plus en plus, font partie de ce que les sociologues appellent la circulation internationale des élites professionnelles. On peut aujourd'hui travailler ici et travailler ailleurs le lendemain. Leïla Alami, par exemple,
qui est aux États-Unis.
Donc il y a une véritable mobilité, mais il y a aussi un accroissement du niveau socioculturel de cette population, dont ces filles aussi témoignent. Et le phénomène d'étudiants, là aussi il s'agit de perception. Jusque-là, on ne prenait pas les étudiants comme partie prenante du fait migratoire. Or, dès les années 1920, ces étudiants font partie, par génération successive, de l'immigration, rencontrent pour partie d'entre eux cette immigration ouvrière. Une association comme l'Association des Marocains en France est créée en 1958 à Paris, et dans plein quartier latin. Et donc, il y a rencontre entre les ouvriers et les étudiants. Et ces générations étudiantes influencent l'histoire marocaine, sur le plan politique notamment, mais aussi sur le plan, par exemple, des arts plastiques ou du cinéma. Les premiers étudiants marocains qui partent à l'IDEC à la fin des années 50 font partie aussi, comme ces romanciers d'aujourd'hui, qui ont influence et qui interagissent avec la société d'origine.
Et quels sont les thèmes d'écriture de ces écrivains de la diaspora? Est-ce que là aussi ça a évolué ou est-ce qu'on reste un peu sur les mêmes questions liées à la mémoire de l'immigration, à la question de l'intégration? Et notamment, on a souvent vu des récits par exemple sur les histoires miraculeuses de réussite, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on sort un peu de ces thématiques-là pour aller vers des fictions un peu plus universelles ou est-ce qu'il y a des thèmes qui restent au cœur de la production littéraire marocaine?
Mais si vous voulez, je crois que en littérature marocaine, mais là je parle un peu comme un lecteur moyen, en littérature marocaine de l'immigration comme dans toutes les littératures, le rapport à l'origine est normal et légitime dans un premier temps. Il est quasiment incontournable. Pour parler aux autres, il faut d'abord d'une certaine manière qu'on démêle les voies du rapport à soi.
Donc c'est presque un passage obligé.
Bien évidemment. Alors, et après, mais tout en restant dans cette interaction avec l'origine, avec soi, avec l'intime, et avec les expériences intimes qu'on peut avoir, arriver à développer, un langage en direction de tous les autres peuples, toutes les autres littératures, c'est un cheminement complexe, il n'est pas donné, qui demande du travail. Et donc, on peut dire que nos romanciers et nos romancières sont en train de faire le cheminement qui est naturel, presque, qui est légitime, me semble-t-il.
Pour tout écrivain de la diaspora, quel que soit son continent d'origine ou son pays d'origine.
Mais même pour, si vous voulez, même pour un écrivain, disons, autochtone, entre écrivains marocains qui écrivent au Maroc, le passage par le quartier, par la famille, par l'histoire
et des parents
est quelque chose de naturel et de légitime, me semble-t-il.
Et quid des attentes des éditeurs? Bon, ces Marocains de la diaspora sont publiés beaucoup dans des maisons d'édition étrangères. Est-ce qu'il y a aussi des attentes de la part de la communauté de l'édition par rapport à ces auteurs, des injonctions à écrire sur un certain type de sujet et qui pèsent peut-être plus sur ces femmes autrices de la diaspora qu'on a évoquées?
Non, mais écoutez, il y a maintenant le personnage de la femme arabo-musulmane liée d'une manière ou d'une autre à l'Occident est une figure incontournable, je veux dire, consciemment et inconsciemment. Nous sommes maintenant pratiquement 30 ans, un peu plus, de l'affaire de Creil, 1989.
La première affaire du voile à l'école.
Absolument. Et donc, on me dit Tyrannée, on est face à l'Europe. Et donc, les interactions entre géopolitiques, avec tout leur poids historique, sont incontournables. Donc, d'évidence, la présence de la femme maghrébine et ce qu'elle est supposée être et les voies d'émancipation qu'on lui prête ou qu'on voudrait lui prêter sont là et sont présentes en permanence. Bon, ce que je pense, c'est que je fais assez confiance en lisant ce qui se publie pour voir les ruses et l'intelligence des autrices qui se développent et qui prend ce réel qui existe à divers niveaux et de diverses manières pour le traiter et en faire une œuvre littéraire. Et on fait aussi en faire une œuvre qui aide à l'émancipation. Je ne pense pas que chaque roman, honnêtement, reflète exactement sur cette question-là de ce que l'autre romancière a écrit. Ouais, on voit bien que même sur cette question-là, les cheminements des autrices sont assez fins. C'est ça qui me frappe moi le plus. C'est la finesse, comment elle joue, comment elle transforme ce stigmate.
On a évoqué les écrivains marocains de la diaspora, il y a aussi des écrivains marocains francophones, certains sont aussi présents lors du salon. Quelle est quel est le rapport qui s'opère aujourd'hui entre écrivains marocains de la diaspora et écrivains marocains qui écrivent aussi en français notamment?
Je crois qu'on a encore besoin encore beaucoup d'interconnexions. D'évidence que ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend, ni qu'on est sur les mêmes problématiques. Donc, toute occasion d'échange est essentielle. Et c'est pour ça que les salons du livre sont importants. Ils se nouent des dialogues et des discussions durant les tables rondes, mais aussi en parallèle, je veux dire, par la multiplication des occasions. Mais on est confronté, c'est pour ça que je pense que cette année, on est en train tout de même de connaître un tournant. La question de la traduction doit être posée et reposée. Le ministère de la Culture, enfin, tout à l'heure, on a parlé de Chalabi, vous savez que je n'arrête pas de dire que Chalabi a mis plus de 60 ans pour revenir chez lui, l'e-book. Il a été traduit en 2021 grâce à Mohamed Hamouddin et Lila Chaouni et a été publié en 2021. Plus de 60 ans pour qu'une œuvre que j'estime majeure sur l'immigration ouvrière revienne au Maroc, aux lecteurs arabophones. Donc le ministère vient de lancer un programme de traduction. Nous-mêmes, nous avions traduit quelques livres. Mais là, maintenant, on est, à mon avis, face à un tournant avec ce programme de traduction que le ministère de la Culture a lancé suite à notre suggestion. Trois, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas aussi, non plus assigner tous ces écrivains à une communauté déterminée d'avance. Il faut laisser les individus, les individualités jouer leur partition et dire ce qu'ils ont à dire dans la langue qu'ils veulent utiliser et de la manière avec laquelle ils veulent utiliser. Ce qu'on doit faire, me semble-t-il, ce n'est pas assigner à une seule origine, ni exiger d'avance un type de discours défini, et accompagner ces voix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire publier, traduire, faire connaître. Et puis après, c'est le talent, c'est aussi le goût des lecteurs qui va décider. On ne peut pas assigner a priori cette littérature à un sort ou à une mission unique.
Mais il faut au moins la rendre disponible Absolument. Le plus largement possible. Vous qui êtes président du Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, on a évoqué le fait que cette diaspora aujourd'hui suit le phénomène de la mondialisation et se retrouve un petit peu partout à travers le monde, parle plusieurs langues. On est parfois à la troisième, quatrième génération enracinée, pour reprendre votre terme, dans les sociétés d'accueil. Comment expliquer la permanence de ce lien avec le Maroc, malgré qu'on soit parfois à la troisième ou quatrième génération?
Écoutez, moi, je crois qu'il y a d'évidence la dimension de l'État. On est, le Maroc n'est pas un État qui naît la veille. Donc les Marocains, d'une manière ou d'une autre, portent en eux, avec eux, et estiment consciemment et inconsciemment que cet État est constitutif de ce qu'ils sont. Et que donc ils ont un rapport à entretenir, à transmettre à cette terre. D'autant plus que c'est une histoire qui a préservé, me semble-t-il, le pluralisme de ce pays. On n'est pas que Marocain. On est Marocain, mais on est aussi Jibli, Fassi, Soussi, etc. Donc, cette diversité, l'appartenance n'est pas homogénéisante, si je peux me permettre. Trois, il y a aussi une politique publique qui a nourri et contribué à nourrir cette appartenance, ce lien. On se rappelle tous de la politique de Feu Hassan II, qui, dès les années 90, l'émergence de cette politique, c'est les années 70. Mais elle s'est institutionnalisée à partir de 1990, du siècle dernier. Toutes les études comparatives au niveau international sur ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques de la diaspora soulignent, disons, le caractère pionnier du Maroc dans ce domaine. Ce qui a eu aussi, à mon avis, une capacité de compréhension des mutations de cette population. C'est-à-dire que la constitution de 2011 en témoigne. Je cite assez souvent, parce que je pense que c'est un bon exemple, l'article 16 de la constitution marocaine de 2011 qui reconnaît la double appartenance de ces jeunes générations qui en prend compte, et on le voit à tous les niveaux, le Maroc officiel, comme la société marocaine aujourd'hui, accepte cette pluralité d'appartenance au même ensemble marocain. Donc l'appartenance ne liquide pas la diversité. Et donc la diversité de la diaspora, me semble-t-il, intègre la diversité marocaine et le pluralisme marocain aujourd'hui.
Dernière question avant de passer à la programmation du CCME lors de ce salon du livre. Vous aviez commencé tout à l'heure par dire qu'il était essentiel de déconstruire un peu les représentations qu'on avait de cette migration. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi aujourd'hui?
Pas entièrement, d'évidence. On est encore... Non, si vous voulez, je pense qu'on avance. Là, par exemple, j'ai feuilleté... Avant les lecteurs, bien sûr, le numéro de Diptyque qui est consacré aux plasticiens, ou le numéro de Tel Quel, coordonné par Sondou Chraibi, sur les romancières marocaines de la diaspora. On va être encore, en lisant, moi-même j'ai été surpris, en lisant sérieusement ces deux numéros spéciaux. Je pensais qu'on était un peu, mais bon, il y a des choses que j'ai apprises dans les deux numéros. Donc on n'est pas encore à 100%. On voit bien des remarques, on voit bien des... Mais si vous voulez, mais je crois qu'on a les bases pour appréhender les mutations. Il y a d'évidence de nouvelles générations qui vont, y compris dans le monde culturel, dire des choses qu'on doit se montrer qu'on doit comprendre. On va être surpris de ce côté-ci, hein.
Alors passons maintenant à la programmation du CCME. On l'a dit tout à l'heure, il y a une large place qui est laissée donc évidemment aux auteurs marocains de la diaspora, et vous avez choisi deux axes, on peut dire, concernant la littérature. C'est d'abord la mise en avant de la féminisation de cette littérature. J'aimerais que vous nous en disiez un mot sur le programme. Et puis aussi, par rapport à cette littérature de l'immigration, un rendez-vous qui est très prometteur, c'est que des écrivains marocains de la diaspora invitent d'autres écrivains. Il y a Hiyam Yared, la libanaise, il y a l'afghan Atiq Rahimi, également invité, qui vont être en dialogue. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces deux choix?
Écoutez, le choix de la féminisation est apparu assez naturel. Il y a deux ans, enfin un peu moins, il y a un an et demi, nous avions déjà publié un coffret avec l'édition de Fenech sur les écrivaines marocaine, écriture féminine au pluriel, tel était le titre de ce qu'on fait avec cette réédition, cette romancière.
Alors, parmi lesquelles on peut les citer Rania Bradan, Leïla Bahsen, Hajar Azel, Samira El-Riachi.
Sont toutes, j'avais regretté à l'époque, mais après la livraison à l'imprimerie, on avait raté de l'insertion de Kawtar Hachi. Je m'en veux encore aujourd'hui. Donc, c'est dommage, mais bon.
Elle sera dans le prochain.
Absolument. Elle mérite même un coffret à elle seule. Donc, je veux dire, il y a de quoi encore faire. Mais en tout état de cause, lorsqu'on voit dans les autres pays, on fait un peu le même constat. Hassan Bouazza aux Pays-Bas, Rachida Marabat en Belgique, Najat El Hajmi et Leïla Karrouche. Donc voilà, c'est, qui écrivent en catalan. Et qui est pour Najat El Hajmi, qui a eu des prix très très importants, moins connu au Maroc, mais très important en Espagne. Donc, dans tous les pays, en Italie, bien sûr, en Angleterre, ça n'a. Qui malheureusement n'a pas pu venir cette année ni l'année dernière. Donc il y a cette diversité de femmes qui écrivent qui, à mon avis, sont en train de contribuer à un double mouvement qui est celui aussi d'interroger ce que c'est l'homme marocain. C'est-à-dire que c'est pas simplement... et à mon avis, elles disent des choses sur ce que c'est la masculinité marocaine en Maroc ou en immigration. Et c'est un angle qui est peut-être peu abordé, mais qui me semble important, c'est pour ça que cette littérature est essentielle. Concernant, si vous voulez, l'autre phénomène essentiel, c'est de dire que, et ça on l'avait déjà fait avec Salim Jay il y a 10 ans, lorsqu'on avait publié une anthologie de la migration en Méditerranée. Cette année, on publie avec Salim Jay une anthologie de la migration dans la littérature du monde, de très beaux textes que les lecteurs pourront découvrir. Et dans cette même foulée, l'idée était de faire dialoguer sur écrire dans la diaspora, écrire sur la diaspora entre des Marocains du monde qui invitent 5 de leurs collègues du monde à venir parler ici au Maroc. Et je crois qu'effectivement, ça donnera lieu à de très bels échanges.
Alors, on rappelle, il y aura Atiq Rahimi, Tierno Monet-Nanbo, je crois, en dialogue avec Khalid Yamhali, Patrice Guirao, invité par Rachid Benzine. Pour citer.
Et
Yann Magaret qui sera en dialogue avec Hajar Azel, effectivement. Oui. Alors on vous invite, chers auditeurs, auditrices, à retrouver le programme sur le site du CCME pour avoir toutes les dates. La littérature est à l'honneur, Driss Liazemi, mais aussi la recherche en sciences sociales. Il y a des tables rondes qui sont consacrées aussi à des thématiques, notamment sur la recherche concernant l'immigration, avec une table ronde notamment qui met en dialogue des chercheurs marocains d'étrangers et des chercheurs marocains sur l'agenda national marocain en matière de migration. Ça aussi, c'est un aspect que vous souhaitiez souligner, faire dialoguer les chercheurs marocains d'ici et d'ailleurs sur des sujets essentiels.
Écoutez, moi, il me semble qu'on a affaire à un véritable problème, qui est celui que, comme vous le savez, dans le domaine de la recherche, celui qui paye et celui qui décide des thématiques de la recherche. Et on peut dire qu'aujourd'hui, principalement, de manière parfois écrasante, la recherche sur l'immigration marocaine se fait à partir de financements du Nord. Et donc, consciemment et inconsciemment là aussi, les thématiques qui sont étudiées ne sont pas nécessairement les thématiques que nous voudrions connaître. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique publique raisonnée sans recherche académique. Et donc, nous avons besoin de développer ce que j'appelle moi un agenda national de la recherche marocaine qui passe à minima par 3 choses, à déterminer quels sont les points aveugles aujourd'hui de la recherche sur l'immigration marocaine. 2, quelles sont les équipes et les échanges à mettre en place entre les chercheurs du Maroc et les chercheurs qui sont en train d'émerger dans l'immigration. Quel transfert de savoir-faire, de méthodologie, peut être fait. Et 3, quels moyens financiers faut-il allouer à ces projets. Donc c'est pour ça que c'est une thématique qu'on a traitée de plusieurs manières depuis assez longtemps. Là, grâce au partenariat avec l'Université internationale de Rabat et l'ami Farid Lassili, on va mettre en discussion cette thématique avec une autre thématique dans le cadre du même partenariat, comment médiatiser
Et vulgariser.
Vulgariser les acquis scientifiques.
D'autant qu'il y a certaines recherches, on recevait ici même il y a quelques semaines Mustapha Almiri, qui est chercheur à Aix-Marseille, et qui disait justement que les recherches, il dirige une équipe internationale sur les mineurs isolés, et il a fait aussi une étude pour le compte du CCME, et ce qu'il nous apprend sur les profils de ces mineurs est une source inestimable pour comprendre depuis le Maroc les options pour l'action publique en fait.
Mais l'importance du travail de Mustapha Almiri, c'est ce qu'il nous révèle avec, si vous voulez, talent, parce que c'est le comment le regard sur ces mineurs non accompagnés qui sont vus comme des cas spéciaux, en fait, éclaire les attentes de toute la jeunesse marocaine et de toute la jeunesse africaine.
Là aussi, on déconstruit. C'est le maître mot. Alors, il y a des hommages aussi pendant le programme du CCME au ciel. Il y aura un hommage autour du film de Simone Bitton sur Feu et de Mohamran El-Merah, un hommage à Driss Chribi. Vous pouvez nous dire un mot de ces hommages?
Écoutez, il y a en fait 5 hommages. Maintenant, on me rend compte qu'il y a 5 hommages. Il y a ceux que vous citez. Et Mohamran El-Merah, immense écrivain marocain, qui a, à mon avis, sur la question du rapport de la création du militantisme, écrit de très belles pages. Il y a bien sûr Feu d'Adil Chalabi. Donc on va rendre hommage, célébrer, commémorer l'apparition des boucs. Mais l'idée avec Sheina Chalabi, sa veuve, c'est de préparer le centenaire. Donc, Inch'Allah, avec un coffret des premières œuvres d'Adil Chalabi, des traductions et probablement un colloque international. Avec l'ami Qassem Basfaou, il y aura au Salon du Livre ici, outre la projection, outre une double lecture, une lecture par 2 jeunes écrivains, Zilem Kouar et Kbir Mustapha Ami, des books, mais aussi un dialogue après la projection d'un film de Ahmed El-Mahnouni, Conversation avec Driss Chribi. Mais tout ça en préparation du centenaire. Il y a 3 autres hommages qui me semblent importants. Un, c'est un hommage à Abdallah Bonfour, un grand maître des études d'Amazir, qui est à Paris, qui a une œuvre essentielle sur la Mazirité, mais aussi sur l'histoire du Maroc. Il y a, par exemple, il vient de publier ces dernières années 2 volumes sur l'histoire des Barouata, la première monarchie marocaine du Nord, avec toutes les sources qu'il y a en arabe et donc toutes les langues sur cette histoire. Un travail gigantesque. Donc un hommage à Abdallah Bonfour, un hommage à Lella Khiti Ben Hachem, première journaliste marocaine en Belgique, qui a créé dans les années 80 la première émission consacrée élaborée en direction de la communauté marocaine de Belgique. C'est aujourd'hui une archive extraordinaire, comme les archives de Mosaïque, qui était l'émission similaire en France. C'est une archive absolument splendide, accessible. Donc c'est pour les jeunes cinéastes et vidéastes et documentaristes marocains d'ailleurs. Il y a aussi un hommage à un homme qui est moins connu du grand public, Feu Ahmed Razali, qui était muséographe, auteur de pièces de théâtre. Bon, pour les Marocains qui ne connaissent pas, par exemple, les visiteurs du musée de l'eau à l'entrée de Marrakech, c'est lui qui l'a conçu. Et bientôt, il y aura l'ouverture d'un musée sur la préhistoire à Casablanca, c'est lui qui l'a conçu. Enfin, il avait plein. Et il a travaillé, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur le projet du musée d'El Hosima aussi. Donc, c'était quelqu'un qui jouait discrètement un rôle essentiel dans la culture marocaine. Et enfin,
Aide-moi
Amr El-Mala. Le film de Simon Bitton, qui a été soutenu par le CCME, est un film essentiel. C'est un peu la mémoire d'Aide-moi à travers ses amis. C'était quelqu'un, effectivement, qui outre son œuvre littéraire, était un grand ami des peintres, mais de manière générale, attirer autour de lui plein de sympathie et d'amitié.
Des hommages de la littérature, de la recherche et puis aussi d'autres styles. Il y a la présentation d'une BD, j'aimerais que vous nous en disiez un mot parce que ça c'est original, qui s'appelle Reliant. C'est des BDistes du Maroc et d'ailleurs qui parlent de la question de l'exil et puis beaucoup de cinéma aussi.
Écoutez, le Reliant est un projet qu'on a développé avec la Fondation Ibar qui s'intéresse à cet art émergent au Maroc. On ne peut pas dire qu'il y ait une grande école marocaine de la BD, mais il y a comme ça une émergence en cours. Et donc l'idée, c'était d'avoir une résidence entre 4 BDistes du Maroc et 4 de l'étranger, et qui ont travaillé, encadrés par 2, quelqu'un du Maroc et quelqu'un de Paris, Raqid, le dessinateur marocain bien connu, Et donc, ça a donné lieu à cette exposition et en même temps à ce catalogue qui sera présenté. Et le programme cinéma, l'idée du programme cinéma, c'était de dire à partir de quel moment des cinéastes marocains ont commencé à filmer l'immigration. Et donc, grâce à des amis comme Mohamed Bakrim ou Hicham Fallah, on a trouvé une dizaine de films, mais parfois qui étaient totalement oubliés. Donc parfois, même certains réalisatrices avaient plus ou moins disparu de la scène. Et donc comme ça, on pourra voir 5 séances de cinéma, chaque fois un court-métrage et un long-métrage, parmi les 10 premiers qui ont été tournés par des réalisateurs marocains sur l'immigration marocaine.
Un programme très riche, donc il y en a vraiment pour
Il y a une exposition photographique, par exemple.
Dites-nous en un mot.
Mais oui, on a conçu sur le site même du ministère de la Culture et du CCME, puisque ce sera le même site, une exposition photo dont le commissariat a été assuré par Jaafar Aqil, qui organise les rencontres photographiques de Rabat. Et cette exposition rassemble 14 photographes marocains du monde, beaucoup de filles d'ailleurs, et qu'il a intitulé Fragments de mémoire. Justement, l'idée, c'est qu'il montre dans cette approche comment là aussi, par la photo, il y a un dialogue, des tentatives de renouer le lien de diverses manières avec la terre d'origine.
Alors, une dernière question, on arrive bientôt malheureusement à la fin de cette émission. Avant de vous poser cette dernière question, j'ai oublié, on n'a pas parlé de la commémoration des accords Belgique-Maroc. On fêtait, je crois, les 50 ans cette année, le CCME a
les
soutenu...
60 ans.
Les 60 ans, pardon. Le CCME a soutenu beaucoup de commémorations et une place particulière est accordée à cette commémoration. Il y a notamment le livre « J'ai deux amours » coordonné, je crois, par Saïd Ben Ali et Fatih Saïdi qui seront présents. Vous pouvez nous dire aussi un mot de ce sujet ?
Écoutez, il y a eu assez exceptionnellement plusieurs initiatives de commémoration. Et donc, on s'est interrogé sur l'idée pourquoi commémorer, à quoi ça sert de commémorer. Alors, il y a ce livre dont vous avez parlé, mais il y a eu 3 initiatives. Moussen Belgica, grâce au labeur et à la ténacité de quelqu'un comme Mohamedi Koubane, qui depuis des années travaille sur les cultures diasporiques à partir de la Belgique. Nous avions soutenu l'exposition et les activités qui ont eu autour et la publication du catalogue. Il y a 2 livres qui vont être présentés qui vont être très importants, qui ont aussi été bénéficiés du soutien du CCME. Le livre coordonné notamment par Ahmed Medoun et publié par l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Bledi Belgica, un très beau catalogue, et un autre livre qui est en train d'être imprimé ce jour-ci, Entre deux rives, fait par Hassan Bousta, qui insère l'histoire de l'immigration dans une histoire plus globale. On connaît un peu l'histoire franco-marocaine, on connaît beaucoup moins l'histoire belgo-marocaine qui a été aussi très intense.
On se rend compte en vous écoutant de l'étendue de la créativité de cette diaspora marocaine, que ce soit celle de la communauté de chercheurs ou d'écrivains ou de créateurs.
Mais il y a par exemple 4 rencontres philosophiques coordonnées par l'ami Ali Ben Makhlouf, qui montre aussi que dans le domaine de la philosophie, au niveau international, il y a plein de philosophes, hommes et femmes, marocains de la diaspora.
Une dernière question, Driss Liazami, en guise de conclusion, ces rencontres sont là pour célébrer, donc on l'a dit, cette créativité, parler des sujets qui occupent les chercheurs. Mais est-ce que c'est aussi une rencontre qui permet de soulever les questions ? Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'édition, la question du coût, la question de la traduction. Est-ce que ça peut permettre aussi aux professionnels du secteur de réfléchir ensemble à comment améliorer tout cela ? Quel serait votre vœu en ce sens ?
Moi, j'ai toujours rêvé de la création d'une agence marocaine d'action culturelle. L'idée est simple, c'est de dire que les cultures du Maroc doivent être transmises au monde, à la diaspora, mais pas seulement, à toute la planète. Et on sait le rôle que la culture peut jouer, y compris dans le développement économique et dans le développement du tourisme. Et en même temps, on a besoin de faire connaître au Maroc, d'élargir notre imaginaire. La diaspora nous permet d'accéder au monde et donc de nous enrichir en même temps. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours pensé rêver d'une agence marocaine d'action culturelle, une structure légère de programmation, de moyens, et qui organise, qui disons qui développent de manière permanente et plus ample ce que nous essayons de faire modestement, ce que d'autres aussi essaient de faire aussi de leur côté.
C'est un joli rêve, Telis Lizami. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler donc du programme du CCME au Salon du Livre. Je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que vous pouvez le retrouver sur le site du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ccme.org.ma. Merci encore, Telis Lizami.
Merci de votre invitation.
Merci à vous tous.